lundi matin. Bienvenue au show du matin, le premier de la semaine. Maxa, comment ça va?
À merveille, journée de la famille au Canada. Tout va bien, tout va bien. Puis je suis content d'être invité ce matin. Je faisais une rétrospective hier soir avec mes années à Damortagne, mes années à l'ABC. J'ai dû engager beaucoup de personnes pour travailler avec moi. Je me suis rendu compte que j'ai frappé beaucoup de coups de circuit. Puis là, on en reçoit un aujourd'hui, un coup de circuit. Lui, c'est plus un grand chelem, un gars que j'ai adoré côtoyer pendant l'année. Martin Bérubé, comment ça va?
Très bien, mon Max. Merci pour les bons mots. Mais j'ai les mêmes sentiments pour toi et mon Max.
Ouais, on a été
n'importe quand.
Roommate pendant 3 semaines, puis on est parti coach, on est revenu ami. Fait que ça a été un beau 3 semaines d'été passé ensemble. Martin, tu es maintenant coach en chef du CESU à l'ABC pour cet été. Mais avant ça, j'aimerais ça qu'on parle de ta carrière, parce que tu as une belle carrière aussi de joueur et de joueur amateur, de joueur professionnel. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu.
Yes, j'ai pris justement des petites notes par rapport à ça pour pas que j'oublie personne et le parcours que j'ai fait. Moi, je suis un gars d'Hochelaga Maisonneuve. Souvent, le monde pense que je suis un gars de Saint-Hyacinthe parce que ça fait longtemps que je suis, mais avant tout, je suis un gars du quartier Hochelaga Maisonneuve. Juste pour vous situer à peu près où est-ce que je demeurais, le centre Grand Chelem à Dog Taureau. Moi, je restais l'autre bord de la rue.
OK.
En étant jeune, j'aurais aimé ça qu'il y ait eu un centre comme ça à côté de chez nous. J'aurais été là tous les jours, mais je suis bien content de voir ça qu'il y a ça dans ce quartier-là. Il était pas mal plus défavorisé dans ce temps-là. Aujourd'hui, au Hochelaga Maisonneuve, ça devient un petit peu plus occupé. Ouais. Moi, j'ai commencé à jouer au baseball à l'âge de 4 ans, puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. Là. Mes années de moustique à Bantam, j'ai joué avec les Olympiques de Maisonneuve. Juste pour vous donner une petite anecdote par rapport à ça. On était un petit quartier, nous autres, au Hochelaga-Maisonneuve, puis on faisait toujours compétition à des gros clubs comme les Royaux des Mélules, ça arrive nord, le Concorde de Laval. Puis on avait des solides équipes. Là. Mike Ribeiro, c'était mon coéquipier. On avait Ntema Dungedi, puis Eric Sayre aussi. Fait qu'on était solides, je me souviens beaucoup de la dernière année Bantam avec ces gars-là.
Ouais,
grosse rivalité avec les Aces de Ville-Marie, qui avait Éric Charon qui jouait là-dedans aussi, Yann Robillard, Yannick Girard. Tous des vieux de la vieille, fait que c'est sûr les nouveaux qui écoutent aujourd'hui, ils ne connaissent pas, mais c'est des gars qui ont fait un gros cheminement dans le baseball au Québec. Là.
Sûr qu'il y en a qui ont accroché sur Mike Ribeiro, par exemple.
Mike Ribeiro, c'était un excellent joueur de baseball. Là. C'était un arrêt court, un petit vite, il était super bon. Là. Il aurait pu faire carrière dans le baseball aussi. Là.
Ah ouais. Hein?
Chose, pour se rendre loin.
Ouais, puis Ntema Nguidi qui est un sandwich pick là, entre la première et la deuxième ronde, puis qui a eu une solide carrière, mais qui n'a pas eu le temps de se rendre. Bon, maladie personnelle, là, mais c'était un five tools player. Là, t'sais, comme peu t'en vois dans ta vie, là, c'était impressionnant. Là. Martin, je te laisse poursuivre.
Bien sûr. Après mes années Bantam, j'ai joué Midget 3 avec le Marquis de Montréal. Puis après ça, j'étais allé à Édouard-Montpetit dans le temps que ça s'appelait l'ABC Relève. Il y avait juste un sport étude au Québec. Fait que toutes les maires au Québec s'en allaient là. Je m'en souviens, on avait même un gars de Rimouski. Il restait à l'autre bord de la rue chez une vieille madame qui l'avait pris en famille d'accueil. Après ça, j'ai joué junior élite à 16 ans avec les Athlétiques de Rosemont au Parc Beaubien, maintenant devenu les élites de Montréal. J'ai fait un court séjour avec les Diamants de Québec aussi. Le coach, c'est Sylvain Saint-Don. J'ai joué là 2 semaines. Puis après ces 2 semaines-là, c'est là que j'ai signé mon contrat professionnel. À l'âge de 17 ans. Entre les deux, j'ai joué à l'ABC, si on parle de 1999. Fait que c'est ça. Fait qu'à 17 ans, j'ai signé mon contrat pro comme agent libre avec les Orioles de Baltimore. Puis en 2004, j'ai joué 5 ans là-bas. J'étais lanceur. Parce que souvent, le monde ne pense pas que j'ai été lanceur parce qu'après ça, j'ai été frappeur dans Ligue Senior Elite. Parce que souvent, le monde ne savent pas. C'est que quand j'ai été releasé en 2004, je m'en allais jouer pour les Capitales de Québec. Sauf que j'avais un mois à rien faire. Fait que là, il fallait que je me trouve une place où m'entraîner. C'est là que j'étais allé jouer avec l'Action, le club de Montréal. C'était Dan Bellil qui coachait ça dans le temps. C'est lui qui est président de la Ligue senior. Sauf que pendant ce mois-là, je me suis pété le bras solide. Je me suis déchiré le labrum à 2 places. Fait que j'ai pas pu aller jouer avec les Capitales. Tu sais, le déchireur du labrum, c'est une des pires blessures pour un lanceur. C'est pas comme un Tommy John que souvent, le Tommy John, tu vas avoir du succès avec l'opération, mais tandis qu'à Labrum, tu as à peu près un 20% de réussite. Là.
Okay.
Fait que là, tu reviens des États, tu n'as pas de job, fait que je me voyais mal être dans un plâtre pendant 2 mois. Il fallait mettre du pain sur la table aussi. Là. Fait que j'ai décidé de ne pas faire cette opération-là parce que ça me nuit pas dans la vie de tous les jours. C'est juste quand je lance une balle de baseball. Fait qu'après ça, j'ai joué un bon, pas loin de 15 ans dans le senior élite avec les Castors d'Actonville. Comme joueur. Fait que j'ai tout fait là-dedans. J'ai fait catcher, frappeur désigné, joueur de champ. Mais j'ai pas lancé beaucoup. Je pense que j'ai à peu près 20 manches lancées dans cette ligue-là. Fait que...
Ce que Martin me disait pendant le voyage quand il catchait, il dit j'avais une balle dans le fusil. J'avais une balle. Fait que quand c'était le temps de pogner un gars ses buts, il fallait que je choisisse le bon. Puis je pouvais le lancer. Puis après ça, j'étais fait le reste de la game.
Exactement. Une balle. Une balle dans le fusil. Puis souvent, qu'est-ce qui arrivait? Mettons que le gars arrive safe aux deux. Je demandais un time à l'arbitre. Le time, c'était pour moi, c'était pas pour mon lanceur. Si tu connaissais la stratégie, tu volais le 2, tu étais safe, tu repartais tout de suite au 3, c'est sûr que je lançais pas au 3. Là. Ça me prenait du temps pour récupérer.
Ah ouais. Mais ça, j'allais te poser comme question, justement, avec cette blessure-là que t'as pas eu d'opération, tu peux pas lancer une tonne après, là, tu sais, c'est clair.
Non, ça me faisait mal, comme je disais, t'as une balle dans le fusil, après ça, tu le sens, puis le reste en la
gueule. Ah ouais.
C'était vraiment douloureux. Il fallait que je choisisse mes moments, là. Mais c'était le sacrifice que je t'apprête à faire parce que tu sais, j'aimais ça beaucoup le baseball. Je voulais continuer à jouer. Je voulais pas mettre un frein d'un coup. Tu sais, j'ai jamais été un frappeur dans ma vie. Puis je suis arrivé senior. Puis on a repris du début. Là. On recommence. Puis on apprend le rôle d'un frappeur. Là.
OK. Ça, c'est cool. Tu as joué où dans le senior? Tu l'as dit tantôt, je pense. Là, mais...
Actonville,
ouais. Okay.
Ouais. C'est un castor.
Ouais, c'est ça. J'en connais un autre castor qui était là, c'était Steve Green, là, mais je pense qu'il y a une histoire avec toi qu'on n'ira pas nécessairement là. Non, je pense réglé, que ça n'avait pas bien fini. Ouais, c'est ça. Hein,
c'est pas bien fini. On s'est assis ensemble, on a discuté. Là. Tout va bien présentement. Là, j'ai aucun problème. Là. On est des bons amis encore. Là.
Tant mieux. On aime ça. J'ai envie de revenir un petit peu en arrière avec les Orioles. Comment ça s'est passé ces 5 ans-là? Tu as commencé sûrement dans les mineurs puis tu as graduellement monté. Comment ça s'est passé?
Oui, c'est 5 ans, c'est ça. J'ai une petite anecdote par rapport à ça. Moi, j'avais signé comme agent libre. J'avais obtenu mon diplôme de secondaire 5, puis j'avais décidé de prendre une année off, autrement dit. Fait que, dans le temps, à l'ABC, il fallait que tu ailles absolument à l'école. Fait que Richard Raymond m'avait dit, prends un cours du soir, tu vas être correct quand même. Fait que c'est ça que j'avais fait, j'avais pris un cours du soir. Fait que c'est ça qui me permettait de signer comme agent libre. Fait que j'avais le choix d'attendre au repêchage ou de signer avant. Puis, j'avais pris l'option de signer avant pour être sûr que j'arrive au camp d'entraînement avant le draft, que je puisse me faire un nom avant que les gars du draft arrivent puis que avec leur gros bonnet de signature passe en avant de moi. Puis, ça avait été extrêmement long. À l'époque, les équipes de majeurs, il y avait un nombre limité de visas de travail. Aujourd'hui, il n'y en a plus, mais dans le temps, il y en avait. Je ne m'en souviens plus c'est combien exactement, là, mais ça avait été extrêmement long. Ça m'avait pris... tu sais, j'ai signé au mois de mai, puis j'ai commencé ma carrière là-bas début août, juste pour te dire le délai qu'il y a eu entre les deux. Là. Je m'étais comme fait avoir un petit peu là-dedans.
Bonne stratégie, Martin.
Ouais, très bonne stratégie. Je regrette rien. Puis c'est ça, j'arrive... tu sais, les Orioles, t'es pas capable de l'avoir le visa tout de suite. Là. Fait que là, ils me disaient, OK, tu vas aller aux douanes, dis que tu t'en vas là, prendre des vacances. Ben oui, c'est moi, j'ai 17 ans, j'ai pas de visa. Les autres, ils me disent, viens-t'en, on a besoin de toi, mais faut-tu continuer de m'entrer aux douanes?
Un anglais douteux aussi,
Très douteux, mon anglais est très douteux. De misère à m'exprimer en anglais, c'est pas comme aujourd'hui, tu sais, tout en anglais, les gens checkent leur téléphone, tout en anglais. Là. On n'avait pas ça, nous autres. Je parlais pas anglais, j'avais de la misère à le comprendre. Là, moi, je dis, je m'en vais en vacances, le douanier me pose plein de questions. Il voyait que il y avait un petit doute. Là. Il commence à fouiller dans mes affaires. Il voit une paire de crampons, une mitte, un jackstrap. Il dit non, toi, t'en vas pas en vacances avec ça. Là. Fait qu'il me dit, va t'asseoir là-bas dans le bureau. Attends. On est bien stressé. Là, je check l'heure. Hey, j'étais assis dans le bureau, là. Pas juste une demi-heure. Là. C'est-à-dire une bonne heure, j'étais là à attendre. Là. Puis là, je dis, hey, mon vol, il est déjà parti. Là. Qu'est-ce que je fais? Il dit non, toi, tu restes ça. Là, ça finit que... J'étais extrêmement chanceux parce que j'étais mineur à l'époque. Mais le douanier m'a dit si j'avais eu 18 ans, il m'aurait banni des États-Unis. Fait que si ça leur est arrivé, je peux-tu dire que j'aurais brassé des affaires avec les Orioles. Pas longtemps après cet épisode-là, Richard Raymond, il avait appelé Walt Burroughs, qui était à l'époque au scouting Major League Bureau. Puis lui a fait avancer les affaires. Ça a pris une semaine, puis j'ai eu mon visa après ça. Là. Fait que c'était un beau bienvenue. Là.
Ouais, le rêve aurait parti en fumée assez rapidement. Hein? Banni des États-Unis, ben oui. Tu ne peux plus jouer. Là. C'est fini.
Ah oui. C'est pas mal rough. Ça a bien commencé, disons. Puis c'est drôle à dire parce que ça a été ma meilleure saison. Quand je check mes statistiques, là, je pense que j'avais donné 2 points dans ce mois-là. Ça a été de mes meilleures saisons que j'ai eues là-bas.
Avec un peu de repos. Avec un peu de repos. Jeff, j'aimerais ça qu'on passe peut-être à ces années à Fadette, hein, Martin. Là, tu reviens ici, tu joues avec le Castor. Sébastien Allard, j'imagine, va te voir de l'école Fadette puis t'amène à savoir si tu as le goût de te lancer dans le coaching. Ton gars, il fréquentait déjà Fadette, j'imagine?
Non, mon gars s'en allait à la Fadette.
Okay.
La façon que ça s'est fait, mon gars jouait Bantam 2A avec les guerriers Richelieu et Yamaska. Puis moi, j'aidais Sébastien, j'étais comme pitching coach avec lui.
OK. Et
à l'époque, j'avais un travail dans le domaine de l'aéronautique. Puis ça faisait 3 ans que je travaillais là. Puis le COVID est arrivé. Fait qu'on savait qu'il y avait un slack qui arrivait bientôt, tu sais. Fait que là, c'est ça que j'avais dit à Sébastien. J'ai dit, ça va arriver, d'après moi, fin août, je vais avoir une réponse. Fait que j'ai dit, admettons que je me fais slacker, garde-moi une petite place au cas où. À Fadette, tu sais, tu vas être comme mon plan B en attendant que je retourne travailler là-bas. Fait que comme de fait, c'est ça qui arrive. Je me fais slacker. Fait que là, je dis à Seb, let's go, je m'en vais au sport-études. Ça fait pas une semaine que je suis au sport-études. Je prends le COVID. Ça, c'était en septembre, pas qu'il vient de passer, mais l'autre d'avant. Je prends le COVID, tu es en quarantaine dans ton sous-sol. Là, tu viens de perdre ta job. Tu as le COVID. Là, je suis dans mon sous-sol, j'écoute les séries du baseball. Ces séries, on sait, commence à 11h le matin puis ça finit à 11h le soir. Fait que je fais juste ça de mes journées. Là, je me dis, calique. Dis là, j'ai l'occasion de faire vraiment le baseball, là, mon travail 24 sur 24. J'ai dit, pourquoi j'embarque pas là-dedans à pieds joints? Là? Fait que c'est une des décisions que j'ai prises. Fait que là, Seb m'a pris dans son sport-études comme pitching coach. Entre-temps, j'ai eu un rappel de la compagnie, mais j'ai refusé. Il y a beaucoup de monde qui me traite de fou d'avoir refusé ça. Mais je leur dis, regarde, c'est ma passion. Je me lève le matin, là, j'ai un gros sourire dans la face. Je reviens le soir, j'ai un autre gros sourire dans la face. J'ai sacrifié du salaire, oui, mais ça n'a pas de prix. Là. Je fais ce que j'aime au bout. Là. Ouais. Je suis là-dedans à 100%. C'est une des raisons pourquoi que j'étais à l'ABC. Parce qu'on s'entend, c'était une job 9 à 5. T'as moins de chances de coacher l'ABC un jour. Là. Faut vraiment que tu sois là-dedans tout le temps, que tu aies du temps.
Puis l'année passée, c'est dans cette période-là de COVID que Max, ben, j'imagine c'est toi, Max, qui a invité Martin à t'accompagner aux États-Unis?
Ben, à force de faire des visites à Fadette pour aller voir des joueurs, puis avec, tu sais, il fallait parler de Vincent puis de Elliott, ben, effectivement, lancer une petite perche à Martin, voir son intérêt un peu à coacher à l'ABC, qui est un investissement parce que, veux pas, Martin habite proche de Saint-Hyacinthe. T'es-tu vraiment à Saint-Hyacinthe?
À Saint-Hyacinthe, oui.
C'est un bon voyagement pour Montréal. Mm-hmm. Puis on a essayé de voir, on savait les qualités d'être humain puis de coach qu'il y avait, puis on voulait l'amener chez nous. Puis il n'a pas été trop dur à convaincre.
Hein? Non, c'est sûr que, tu sais, je t'avais parlé, j'en parlais avec Max Lamarche aussi. Ça, c'est une possibilité que vous m'avez suggéré. C'est sûr qu'il y a beaucoup de considérations à prendre. T'sais, ma famille, là, je prends l'occasion de remercier ma blonde. T'sais, là-dedans, le grind, elle a vécu aussi avec moi dans les ligues mineures. Là, elle m'a suivi longtemps. T'sais, quand tu es coach à l'ABC, comme tu dis, c'est un investissement de soi aussi. Tu as beaucoup de temps à passer avec les jeunes. Puis, elle vit ma folie avec moi aussi là-dedans. Là, fait que mon point majeur, c'était pas vraiment, OK, je vois-tu là. Mais c'était plus, je le sais, j'ai sacrifié beaucoup. Ma famille a sacrifié beaucoup là-dedans. Tu sais, je passe beaucoup de temps sur un terrain de balle, puis pas à la maison. Fait que ça a fait une grosse partie de ma décision, mais elle m'a dit go, vas-y. Elle me permet de vivre ma passion à tous les jours. Fait que je la remercie encore aujourd'hui.
Oui, parce que tu es arrivé à l'ABC à temps partiel juste pour aider, puis là, tu fais vraiment le saut officiellement à temps plein. C'est vraiment ça la grosse différence.
Non, je ne suis pas encore à temps plein. Nous autres, c'est ligue d'été.
Tu vas être OK pour l'été.
Vraiment, c'est juste l'été, là.
OK.
Ouais, exactement. Tu l'as vécu l'été passé. Comment tu as vécu ça l'été passé là, de vivre l'ABC? Bon, l'ABC était dans un tournant. Toi, tu as vécu l'ABC en 1999, tu disais.
Ouais.
L'ABC 2021 est complètement différent. Comment tu as vécu ce clash-là cet été? Puis comment tu vois l'été 2022 en même temps, là, qui approche à grands pas, qui va être quand même une été importante parce que tu vas être en chef dans le CESU?
Non, c'est sûr qu'il n'y a rien de comparable à nos années en 1999. Là. Notre voyage, nous autres, notre pain et notre beurre, c'était 2 semaines en Floride au mois de mars. Puis on avait quelques week-ends en automne pour aller aux États-Unis. Puis nous autres, c'était les meilleurs 22 ans et moins. Puis on avait une couple de gars de l'Ontario aussi qui étaient avec nous autres. Fait que, il n'y avait pas beaucoup d'espace pour les nouveaux. Je pense qu'on était 6-16 ans à l'époque. Là. C'était vraiment pas beaucoup. Master, c'est pas mal mieux structuré. Vraiment, c'est l'emphase. Je sais que l'ABC veut placer beaucoup de joueurs dans les collèges américains et ces choses-là. Dans mon temps, c'était plus axé vers le baseball professionnel parce que les gars de collège, ils n'avaient pas. Là. Fait que là, c'est la réputation que l'ABC s'est faite au cours des années, que le bouche-oreille, les contacts, les scouts sont pas mal intéressés à ça. T'sais, on l'a vécu l'année passée, toi, Atlanta. C'est juste avant les games, le nombre de collèges universitaires d'ailleurs, ils viennent voir tel et tel gars m'intéresse, peux-tu m'envoyer son rapport, et ainsi de suite. Dans mon temps, on n'avait vraiment pas ça. Là. Fait que là, non, c'est pas tout pareil. L'été 2021, c'est comme un mal pour un bien, le COVID. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a pu faire comme un genre de spring training. On jouait un petit peu moins de matchs. C'était vraiment axé sur l'apprentissage. Là. Fait qu'un camp... Spring training, on essaie de le faire style professionnel un petit peu. Puis c'est l'intention qu'on a de faire aussi cette année. Là. Je pense que les matchs risquent d'être plus les fins de semaine, puis les 2 pratiques en semaine. Ça va être vraiment axé sur ça spécifique, faire des petits groupes, 3-4 groupes au champ, à l'infield, puis let's go, on fait du PFP, on fait de la théorie, toutes ces petites choses-là qu'on n'aurait pas pu faire normalement. Fait que c'est beaucoup, beaucoup d'apprentissage pour les jeunes. Là, fait que les jeunes sont super bien encadrés là-dedans. Là. Puis j'aurais aimé ça, vivre cette expérience-là à mon époque. Là. Si on parlait d'un 2 semaines en Floride, à mon époque, dans un dorm à Cocoa Beach, ouais. On avait accès à la cafétéria, on avait toutes ces petites choses-là. Puis souvent, c'est ça que je disais quand je suis arrivé dans le baseball professionnel. J'étais garoché là. Sans avoir vécu des expériences de ce style-là, tu sais, laissé à toi-même pendant le mois, tu sais, qu'est-ce que je mange le matin, qu'est-ce que je mange le dîner, il faut que je fasse ma propre bouffe aussi. Là. Tu sais, je suis arrivé là-bas, moi, une autre petite anecdote, je sais celle que je vais dire par rapport à ça. Tu sais, tu disais tantôt, je parlais pas aucun mot anglais. J'arrive là-bas, puis le trainer vient me chercher à l'aéroport. Il dit, on a un autre francophone avec nous autres. Il dit, ah ouais, qui ça? Là, moi, je parle de Papi, Ntema Dungedi. Non, pas lui. Il dit Éric Bédard. Je ne sais pas si ça vous dit sûrement de quoi. Il a lancé avec les Orioles, il a joué avec les Mariners de Seattle. Il dit on a un Québécois, Éric Bédard. Je ne connais pas de Québécois, Éric Bédard. Mais non, c'est un Franco-Ontarien. J'arrive là, puis il me parle, il y a un accent québécois comme nous autres là. Fait que là, je peux te dire que la pression à ses épaules venait de tomber. Là. J'avais quelqu'un pour me soutenir durant ces années-là. Fait que souvent, fait que ça, c'est de quoi je veux apporter aux jeunes. Tu sais, j'ai vécu l'expérience des mineurs. Fait que je veux leur montrer des choses qu'on fait en haut, là, qui s'attendent à c'est quoi être un professionnel. Ça, c'est extrêmement difficile. Un coup que tu es rendu là, il faut que tu sois professionnel. On and off the field, tu sais, là, c'est ça qu'on essaie d'inculquer comme valeur aux jeunes. Que j'avais pas dans ce temps-là. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Fait que là, je veux vraiment leur montrer à quoi s'attendre.
Oui, puis je trouve ça le fun. Tu as fait une rencontre qui était inattendue, puis j'ai vu quelques photos circuler cette semaine ou en fin de semaine sur des anciens de l'ABC qui se sont rencontrés parce que soit ils se sont affrontés ou en fin de semaine parce qu'il y a des matchs que. Mais ça, c'est le fun parce que tu rencontres des anciens coéquipiers, mais y a-tu d'autres rencontres que tu as faites comme celle de Bédard qui t'ont marqué justement dans ton parcours avec les Orioles?
Moi, j'ai joué, je pense, à ma 3e année, Cal Ripken Jr. Il s'est construit un gros complexe à Aberdeen, dans l'État du Maryland. Puis cette année-là, les Orioles ont décidé d'implanter une équipe là, une équipe des mineurs. Fait que moi, j'ai été chanceux d'arriver là. C'était Cal Ripken, justement, qui était propriétaire de l'équipe. Il est venu peut-être 2-3 fois dans l'année. Puis tu sais, ce gars-là, il dégageait vraiment une prestance. Là. Il parlait tu l'écoutais, lui, c'était vraiment le professionnel A1 que tout le monde veut être, tu sais.
Ouais.
Vraiment, il avait un beau charisme, puis c'est un gars qui avait une tête à ses épaules, puis qui connaît la game au bout de ses doigts, là. Fait que lui m'avait vraiment beaucoup impressionné à ce niveau-là, là.
Nice. Écoute, vas-y.
Non, non, vas-y, ben, j'allais sur des questions sur Facebook. Là, j'ai eu une question ou deux par rapport à FedEx, mais vas-y avec ta question avant.
OK, avant qu'on passe aux questions, il y a eu des try-outs de l'ABC mm-hmm. des deux dernières fins de semaine. J'aimerais que tu nous en parles un peu, comment ça s'est passé, qualité des joueurs, comment tu entrevois ça, la suite des choses aussi.
Oui, le camp d'entraînement, ça a commencé il y a deux semaines. Le premier samedi, je pense qu'on avait invité, je pense que c'était 63 joueurs. Là, on a fait une première coupure. On est tombé à 40 joueurs. Puis, on était supposé faire les équipes après deux pratiques, mais clairement, on ne pourra pas la faire tout de suite. Je pense qu'on a prévu de faire une dernière pratique. Justement, on est supposé se rencontrer cette semaine pour savoir où placer les gars. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de spots disponibles non plus. Je pense qu'il y en a une quinzaine. Là, c'est à savoir... à faire une depth chart qu'on appelle. Fait qu'on place mm-hmm. les 18U, 17U, 16U, parce qu'il n'y a pas juste des 16 ans quand on a des 18 ans aussi, des 17 ans. Parce que c'est vraiment dans l'optique d'avoir les 60 meilleurs au Québec. Fait que là, ça a filé les trous qu'on appelle. Là. Fait que là, ça va être pas mal difficile. On a déjà commencé les débats après la pratique de samedi. On est à savoir, prends-tu des fois un projet? Tu sais, tu as été coach des fois, tu te dis, ah, lui, je suis capable de faire de quoi de bon avec lui. Où tu prends plus le concret, peut-être la personne qui lance moins fort, mais que tu sais qu'est-ce qu'il va te donner. Fait que là, vu qu'il n'y a pas beaucoup de spots de disponibles, c'est là que nos débats sont, puis ça a déjà commencé, là. Il va falloir débattre longtemps par rapport à ça, là. Mais tu sais, il y a du beau talent au Québec, là.
Ça, ouais, tant mieux, puis c'est ça qui est intéressant quand tu fais des équipes, c'est d'avoir les idées d'un peu tout le monde. Ton coaching staff, est-ce qu'il est bâti aussi, Martin, ou ça, tu es entraîneur-chef, puis on attend de voir?
Il n'est pas encore bâti. Là, pour moi, ça va ressembler un peu comme l'année passée. Vraiment, à la dernière minute, on va savoir avec qui qu'on va coacher. Là.
Parfait.
Ton œil à toi, le baseball au Québec, le talent, est-ce que ça a beaucoup augmenté? Ça a-tu resté pas mal la même affaire quand tu compares? Parce que tantôt, tu parlais, il y avait plein de gros noms là, que tu as nommés. Puis évidemment, tu n'as pas juste rencontré ces noms-là, mais ça a sorti du lot. Aujourd'hui, quand tu regardes les jeunes qui se présentent à tous ces camps-là, est-ce que le talent a augmenté au Québec?
Ah, sans équivoque, c'est sûr que oui. Là. C'est comme je disais tantôt, on avait un sport-étude dans le temps, Édouard Montpetit, la star, je ne sais pas combien il y en a, une douzaine. Tu as toujours la qualité des coachs aussi qui va avec ça. Là. Tu checkes les sports-études, les coachs qui sont là, ils ont quand même beaucoup d'expérience. T'sais, dans mon temps, un gars qui lançait 84, il n'avait pas la tonne non plus. Là. Là, aujourd'hui, de nos jours, là, il en a pas mal. Là. T'sais, avec des belles mécaniques de lanceurs aussi. Là. Puis des jeunes solides qui frappent la balle fort, là, il y en a beaucoup aussi. Là.
Très cool. Ah, j'ai envie de te lancer rapidement aussi. Est-ce que tu as suivi un peu le développement du baseball féminin avec le lancement de l'Académie volley féminin qui est sorti? T'as-tu suivi un peu ça? T'es-tu impressionné par le talent des filles, justement, de plus en plus au Québec?
Oui.
Puis même dans le monde, là?
Oui, je suis content que tu en parles. Oui, il y a l'ABC féminin qui est sorti. Mais tu sais aussi, à Saint-Hyacinthe, je pense, à mon mandataire au sport-études, Sébastien Allard, c'est à Saint-Hyacinthe, et lui en a vraiment beaucoup développé des filles aussi. Puis c'est un critère qu'on a avec les nouveaux secondaires 1 qui arrivent. C'est pas juste des gars qu'on prend. On essaie d'en prendre au moins 3 filles par année. C'est sûr, s'ils ont le talent aussi, mais ça fait partie de notre optique. Là. On veut vraiment qu'il y ait des filles. Là, tous les vendredis soirs, on fait des cliniques de baseball féminin aussi. C'est super le fun. Là. Puis qu'est-ce qui est le fun là-dedans aussi, c'est que comme nos cliniques, le vendredi soir, on prend les jeunes filles du sport-études. Puis nous autres, on est là comme superviseurs. Fait qu'on les laisse runner la pratique. Non. Fait que là, on se déplace de station à station. On regarde ça aller. Puis je peux vous dire, les filles sont super bonnes comme coach. Là. C'est pas la même vibe qu'avec des gars. Je peux te le dire tout de suite.
faut que tu ajustes ton coaching. T'as pas le choix. Ouais,
Excuse-moi, c'est juste, on a tellement d'invités à chaque semaine, puis à chaque fois qu'on parle de baseball féminin, la chose qui ressort le plus, c'est pas pareil les filles quand ça coach ou coacher des filles, des gars, c'est complètement pas pareil. Puis ben là, je commence à le croire, là, tout le monde a dit.
Alors, c'est les petites filles qu'on a, on leur montre de quoi la semaine. Là, ils font leur coach le vendredi soir, puis ils appliquent à la lettre. C'est pas juste à moitié, là, vraiment à 100%, ils se donnent à fond, puis ils sont très bonnes. Moi, ils m'impressionnent vraiment beaucoup.
La différence avec un gars, c'est quoi? C'est qu'il va t'écouter, mais à moitié?
Le gars, il va le prendre, il va peut-être l'exécuter à 50%. Oui, il y en a qui vont l'exécuter sur le champ. Les filles vont l'exécuter sur le champ. Puis, ils sont plus émotifs aussi, les filles, on le sait. Des fois, ils l'ont pas, puis là, oups, tu vois, ils sont déçus, mais niveau apprentissage, les filles, là, sont sans coche, là. Ils vont l'exécuter instantané, puis ils vont s'en souvenir qu'est-ce que tu as dit, là. Comparativement à un gars qui peut se la jouer un petit peu plus, puis, ah, je suis bon, pas besoin de faire ça, là, tu sais. Ah, ouais. La fille va vraiment t'écouter, puis c'est ça qui est vraiment le fun là-dedans.
Jeff, tu avais des questions sur Fadette?
Oui, bien, il y en a une, c'est rendu notre fan numéro un. Je pense, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Pat Gagnon, là, fait que je pense qu'il est en train de se faire voler sa place, mais Fred Lanoux qui demande si, mais premièrement, il dit bravo, Martin, qui seront les prochains de Fadette à se joindre à l'ABC, selon toi?
Oh, là, c'est... On va avoir nos punch tout de suite.
Oui, t'es le gars de sa tape, là.
Ouais, hein? Ouais.
Fais comme Éric Duhaime, puis réponds pas à la question.
Non, je vais répondre. Tu sais, on a eu 5 d'invités cette année à l'ABC. Il y en a vraiment un qui se démarque du lot. Il y a vraiment beaucoup, tu sais, les coachs l'ont vraiment adoré. Je parle comme Zach Ménard. C'est un super bon jeune. Il est extrêmement rapide. Je pense que ça a été un des joueurs les plus rapides sur le 60 verges. Il y a 2 semaines au camp de l'ABC. C'est vraiment un bon petit gars, là. Il a tous les outils pour lui. On n'a rien décidé encore, mais Zach Ménard, ça risque d'être un bon là, à suivre dans, okay, les prochaines années.
J'ai une autre question qui vient juste d'apparaître. C'est un certain Dayton Lachance qui la pose. Je pense que vous le connaissez bien. Ouais, puis il demande, il... Martin, tu nous parles pas de ta carrière de DJ.
De DJ, ouais, je faisais le DJ des fois dans... Dans notre van, l'histoire de van. Max aussi pourrait nous parler d'une petite anecdote qu'on a eue en Floride par rapport à la van. Là.
J'ai failli sortir la vidéo de Max Bois qui fait une petite danse devant dans un stationnement de Walmart.
Ouais. Non, ma carrière de DJ, moi j'étais c'est la ligue nord-américaine au hockey semi-pro. Moi, depuis que j'ai l'âge de 16 ans, je suis DJ dans les arénas. Okay. J'ai jamais arrêté depuis ce temps-là. C'est comme un autre hobby que j'ai. C'était bien le fun, j'aime bien ça, faire ça, la musique. Mais justement, Max Bois, c'était tout un phénomène, ça.
Ouais, on a, honnêtement, là, c'est une des belles étés que j'ai passé avec un groupe, tu sais, où il y avait tellement d'incertitudes au niveau de la COVID, le voyagement, le booking, les masques, les tests avant de partir, les tests en revenant. Que juste l'atmosphère là, avec que Martin a créé, que les gars ont comme embarqué dedans, que c'était tellement une belle été que, tu sais, ça me surprend pas que Dayton lance une craque comme ça là, sur sa carrière de DJ. Puis on a vraiment des beaux souvenirs des 20 joueurs qui nous ont accompagnés là-dedans. Puis on a eu une bonne trotte aussi, Martin. On a eu des bons résultats en plus.
Yes. Donc, c'était vraiment un super bel été, honnêtement. Là. Rien à dire de négatif là-dedans. Puis c'est vraiment ça que tu vas emmener comme équipe. Là. Tu vas avoir un bel esprit d'équipe. Quand ça, c'est au summum, là, tu peux tout faire. Là.
Je t'en souhaite une pareille pour 2022.
Yes.
Tout à fait. Un gros merci, Martin. Ça, c'est déjà terminé. Mais un gros merci d'avoir été là ce matin. Moi, je te découvre ce matin. On ne s'est pas vraiment parlé. On s'est déjà texté justement pendant que tu étais en voyage avec Max aux États-Unis pour des photos, des trucs comme ça. Mais belle découverte ce matin. Puis on va retravailler ensemble dans la prochaine année. Donc, bienvenue, coach Saizu.
Good, merci.
Merci. Bonsoir, salut Max. Salut Max. On se revoit mercredi. Puis merci tout le monde encore une fois d'avoir été là. Les questions, les commentaires, toujours appréciés. Salut.
Membre de la famille H2O Web Media.